L'émancipation de la femme se présente aujourd'hui comme l'une des grandes révolutions de ces 10 dernières années. Elle a marqué la vie politique, l'activité économique, le journalisme, l'administration publique, la musique et bien d'autres domaines à travers le monde. De nos jours, cette émancipation marque même les sommets dans beaucoup de pays. Qu'en est-il de la RDC ? Les Congolais peuvent-ils se faire à l'idée d'une femme au sommet de la République ? C'est ce que nous allons découvrir au cours de Parité et Famille, votre magazine qui s'intéresse aux questions liées au genre et à la famille. Je suis Nelly Fallon Kabena, bienvenue à tous. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans Parité et Famille. D'abord, coup de projecteur sur les instruments juridiques ratifiés par la RDC pour la promotion de la femme. Pour rappel, la RDC a souscrit et ratifié plusieurs instruments internationaux qui, non seulement promeuvent le droit de la femme en général, mais également d'une manière particulière, visent la promotion de la participation politique des femmes. La participation politique de la femme constitue une des questions des discussions politiques de l'heure au niveau local, national et même international. Faisons un petit résumé de ces instruments avec vous, Thérèse Kankou.
La République démocratique du Congo a effectivement ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux relatifs aux droits humains. Et parmi ceux qui promeuvent la femme, il y a notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'endroit de la femme, le protocole d'accord de la SADC sur le genre et développement, la résolution 1325 des Nations Unies. La loi portant modalités d'application de droits de la femme et de la parité est une application de l'article 14 de la Constitution. Cette loi a pour but la promotion de l'équité des genres et de l'égalité des droits, des chances et des sexes dans toute la vie nationale, notamment la participation équitable de la femme et de l'homme dans la gestion des affaires de l'État. Elle comprend 38 articles regroupés en 5 chapitres. Nous n'allons pas citer tous ces articles, Nelly. Nous allons plus nous appesantir sur quelques dispositions qui ont un rapport direct avec la promotion de la femme dans les institutions. Cette loi encourage, entre autres, l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, ainsi que la protection et la promotion de ses droits, le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation, une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales, et la parité homme-femme. En ce qui concerne la représentation de la femme dans les domaines politiques et administratifs, cette loi stipule en son article 4 que l'homme et la femme jouissent de façon égale de tous les droits politiques. Les partis politiques doivent donc pour cela tenir compte de la parité homme-femme lors de l'établissement des listes électorales dans les conditions prévues par la loi électorale telle que précise l'article 5. Et l'article 6 de poursuivre que l'État doit adopter des stratégies spécifiques afin d'assurer des possibilités égales de participation entre les femmes et les hommes à tous les processus électoraux, y compris à l'administration des élections et au vote. Selon l'article 7, les politiques et les programmes économiques de développement du pays doivent être élaborés et mis en œuvre en tenant compte de la parité homme-femme. Plus loin, en son article 27, cette loi invite les instances compétentes en la matière à encourager l'accès de la femme et assurer sa promotion au sein de la magistrature, des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. Et d'après l'article 30 de cette loi, le Conseil national du genre et de la parité est un mécanisme inclusif composé des représentants des institutions, des ministères concernés et des forces vives œuvrant pour la promotion de la femme.
Merci Thérèse. Malgré toutes ces avancées, la femme congolaise reste sous-représentée dans les organes de prise de décision. Lors des élections de 2011, par exemple, on a enregistré des résultats assez faibles. À la législature nationale, seulement 44 sièges sur 500, c'est environ 9% de sièges qui sont occupés par les femmes. Cette situation montre suffisamment que les efforts doivent être fournis davantage pour inverser la donne. Et la femme doit être au centre de ces efforts, car elle-même étant l'actrice principale. Son émergence a subi plusieurs mutations au fil des années. Suivons à ce sujet Alexandre Nawej, professeur historien à l'université de Lubumbashi.
Nous pouvons remonter à l'époque précoloniale. À l'époque précoloniale, la femme était toujours à côté du chef. Mais la femme agissait en coulisses. C'est que politiquement, la femme n'émergeait pas, mais elle participait la nuit à des décisions avec son mari pour dire, pour tel problème, il faut résoudre comme ça, comme ça, comme ça. Pendant la colonisation, il y a les Belges qui viennent, et même les Belges ont privilégié l'éducation des garçons par rapport à l'éducation des filles. Ce qui fait que les filles, on a mis surtout les écoles ménagères, où elles devaient apprendre à raccommoder les habits, à repasser, à entretenir. Oui, et les femmes, si elles pouvaient encore étudier plus, c'est à l'école
coupe et couture.
Et ça s'arrête. Quand nous accédons à l'indépendance, la situation ne change pas tellement. Même les parents privilégient toujours l'éducation des garçons en disant, bon, les filles sont bonnes pour le mariage. Mais nous pouvons dire quand même une chose, nous avons vu déjà Madame Liao Kanza, qui est pratiquement la première femme congolaise à entrer dans un gouvernement comme ministre.
Elle assurait quelle fonction à ce moment-là?
Je crois ministre des Affaires sociales. Il faut attendre l'année 1975 au niveau international, l'émancipation de la femme. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à voir la femme à peine elle émerge. Mais je connais quand même un peu quelques statistiques. Jusqu'au moins dans les années 80, c'est à peu près 2 à 3% des femmes qui sont dans le gouvernement de Mobutu. À partir des années 2000, avec la démocratisation de notre pays, surtout avec l'entrée de M. Laurent Désiré Kabila, on voit de plus en plus les femmes participer à la vie active, que ce soit en politique, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans les services. Malgré cela...
Parce que nous parlons des candidatures féminines aux prochaines élections, nous avons résolu de revenir sur leur représentativité au provincial. Prenons le cas du Kasaï central. Les femmes candidates aux prochaines élections ont pris part à une rencontre organisée dernièrement par la section électorale de la MONUSCO et le conseil régional des organisations non gouvernementales de développement. Le but était d'apprendre à ces femmes des stratégies de campagne électorale. Merci de suivre ce reportage de Blaise Dongala qui revient ainsi sur cette question de représentativité des femmes.
Les candidates femmes sont faiblement représentées. Interrogée, la secrétaire exécutive de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement du Kasaï attribue cette situation aux leaders des partis et regroupements politiques qui, selon elle, alignent difficilement les femmes sur leur liste électorale. Nathalie Kambala Loussé.
Nous avons organisé des rencontres, des tables rondes avec les partis politiques pour supplier aux partis politiques d'insérer sur leur liste le nom de femmes comme candidates. Et ils ont même signé des engagements solennels pour dire que cette fois-ci, sur les listes, il y aura et des femmes et des hommes. Mais fort malheureusement, après les dépôts et après notre ronde dans des partis politiques, la plupart étaient déçus. Il y a d'autres partis politiques, il n'y a aucune femme. Mais vous verrez qu'il y a plein de femmes sympathisantes dans les différents partis politiques.
À la Fédération de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux IDPS à Kananga, la thèse d'exclusion des candidates femmes sur les listes des partis et regroupements politiques est rejetée. L'un des cadres soutient cependant que la plupart des femmes se sont écartées elles-mêmes de la course au provincial, faute des moyens pour payer la caution fixée à 1 million de francs congolais, soit 630 dollars américains. Blandar Chimomo.
Moi je pense que cette affaire-là n'incombe pas aux responsables du parti politique. Pourquoi? Par exemple, dans notre parti IDPS, dans les députations provinciales, nous avions lié maman. Quand nous sommes allés à la CENI, on a exigé de donner l'argent. L'autre-là n'avait pas l'argent. Elle s'est retirée elle-même. Ce n'était pas gagné. C'est le problème d'argent qui fait peur des d'autres femmes qui voulaient donner leur candidature. Ce n'est pas que les responsables du parti politique refusent de prendre le maman. Non.
Consciente de cette situation, la présidente provinciale du cadre permanent des concertations des femmes congolaises, CAFCO, recommande au gouvernement de la République de financer les partis politiques, comme dans d'autres siens, pour que ces derniers soient également en mesure de soutenir les candidatures de leurs membres à n'importe quelle élection. Adolphine Kabedi.
J'ai vu 2 ou 3 femmes qui pleuraient et en cours de route, on me dit « Maman, on vient d'être débarqué par la CENI ». Alors je posais la question « Il s'agit de quoi ?» Parce qu'on n'a pas versé, parce que. Mais moi, je voudrais demander au gouvernement, comme on le fait partout ailleurs, d'appuyer les partis politiques pour que les partis politiques aussi puissent appuyer les femmes. Sinon, la femme ne sera pas représentée parce que la femme elle-même ne possède pas l'argent.
Comme il en est ainsi, la secrétaire exécutive de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement du Kasaï ne baisse pas non plus la garde. Nathalie Kambala estime qu'il est nécessaire pour les femmes de voter quelques-unes de leurs semblables restées en course aux élections provinciales pour que le Kasaï central ait aussi des députés femmes lors de la prochaine législature.
Nous, peut-être pour nous, c'est une petite force. Pourquoi? Puisque aller aussi en nombre exorbitant, c'est disperser les voix. Nous pensons avec les quelques femmes, on a vraiment enfité nos armes pour que cette fois-ci, qu'il n'y ait pas vraiment l'erreur au niveau de femmes.
Au Kasaï central, outre les manques de moyens financiers qui sanctionnent la faible représentativité féminine, il existe également d'autres causes à la base de cette situation, comme les habitudes culturelles.
Si, pour créer ce changement qu'on appelle affirmative, action a été très utile en tant qu'intervention transitoire pour corriger déséquilibres, injustices et erreurs du passé, désormais elle ne doit plus intervenir, selon Roosevelt Thomas, dans le processus de mobilité professionnelle ascendante, dans la mesure où une telle stratégie rentrerait en conflit avec le principe d'une justice méritocratique qui est maintenant l'enjeu dans les entreprises. Si Mme Pelagie Ebeka est de cet avis, mais elle précise que le principe n'est pas le même en politique de l'heure. Suivez cet extrait de l'interview qu'on a eue avec elle, alors qu'elle intervenait comme formatrice dans une formation des femmes candidates sur comment battre une campagne électorale réussie, une session organisée par le NDI avec l'appui de la coopération suédoise.
Il y a quand même un aspect que l'on a longtemps négligé dans notre pays, notamment en ce qui concerne les femmes. On parle des femmes parce qu'elles ont vraiment besoin de relever le niveau pour se mettre un peu au même diapason qu'avec les hommes, c'est le mentoring. Il faut que les femmes s'identifient à des modèles, n'est-ce pas? Et pour le permettre, il faut vraiment capaciter cette femme-là, non seulement pour les élections, mais continuer à l'encadrer, même lorsqu'elle sera dans les institutions, parce que je vous dis, ce ne sont pas les compétences, ce n'est pas l'intelligence qui manque aux femmes. Malheureusement, on a été, je le dis souvent comme ça, on a été formaté comme ça depuis la naissance, à cause des pesanteurs de notre société qui veut que les femmes occupent un rôle secondaire. Et la femme a été formatée ainsi. Ainsi, ce qui fait que souvent elle manque de confiance en elle, alors qu'elle a tous les atouts, mais ce qui lui manque, c'est d'être boostée, d'être encouragée pour aller de l'avant. Vous savez, en politique, les femmes n'ont pas d'expérience. On souhaiterait que les choses changent et que les femmes le fassent, qu'elles fassent la politique, mais de façon professionnelle, de façon éthique.
Voilà encore une autre préoccupation qui semble éloigner les femmes dans la politique. Nous abordons la question après cette page pub.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre. Mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours et merci de suivre Parité et Famille. Nous parlons aujourd'hui de l'émancipation de la femme au sommet des pays, cas de la RDC. Les Congolais sont-ils prêts à accepter la femme au sommet de l'État? Pour ce faire, nous avons promené notre micro dans les rues de Lubumbashi pour jauger comment les Congolais analysent cette nouvelle approche, celle de voir une femme au sommet de l'État ou dans les hautes instances de prise de décision. Suivez ces quelques réactions.
Si nous voyons les présidents qui sont succédés dans notre pays, Kassavubu était civil et nous savons de quelle manière il a été bouté dehors, mais ceux-là qui sont succédés, ce sont des militaires. Notre pays, nous appelons que c'est un sous-continent avec beaucoup de problèmes. C'est pourquoi un militaire, je n'exagère pas pour dire un militaire convient pour notre pays, mais je dis seulement que compte tenu de l'étendue de notre pays, en tout cas, il faut un homme fort ou bien il faut une femme très forte. Ce qui me fait dire que ce n'est pas pour aujourd'hui qu'on va élire une femme présidente de la République.
Personnellement, je pense qu'il faut un homme à la tête du pays. Vous savez, les femmes, c'est compliqué, trop de problèmes, les femmes trop sentimentalistes, des fois où il faut prendre certaines décisions. Et quand il y a une femme, elle fait sa femme et voilà.
Mais regardez l'histoire du couple, vous verrez que la société a été moins clémente à l'égard de la femme. Mais avec la tendance aujourd'hui, les enfants qui naissent aujourd'hui, des parents intellectuels, sont en train de renverser ces tendances, mais il faudrait regarder les fruits dans 30 ou 40 ans. Ce n'est pas aujourd'hui.
La RDC a désespérément besoin de femmes dans les institutions de prise de décision, tout simplement parce que c'est une obligation pour la RDC. Une obligation qu'elle tient de ses propres lois, en commençant par la Constitution qui a été votée par référendum et qui nous régit actuellement, de par les engagements internationaux et régionaux que la RDC a pris et dans lesquels elle s'est engagée à non seulement favoriser la participation des femmes, mais prendre des mesures, au besoin des mesures de discrimination positive, pour permettre la participation paritaire des hommes et des femmes dans les institutions du pays.
Pourquoi pas? Si elle a les atouts, si elle a étudié, elle peut être présidente. Le temps est révolu, donc la discrimination entre le genre ou les hommes ou les femmes est déjà passée, quoi.
Il n'y a pas de souci, la différence est au niveau de sexe. Et si elle a des atouts, pourquoi pas? Et aujourd'hui, la femme, elle a compris que pour résoudre les problèmes de son pays, des problèmes communautaires, il faut participer dans des instances de prise de décision. Donc, c'est une main d'œuvre qui chôme, une main d'œuvre importante.
Nous ne sommes pas encore prêts. Les gens qui élaborent les textes, ce ne sont pas ceux-là qui doivent les appliquer. Et ceux qui doivent les appliquer, est-ce qu'ils comprennent ce que c'est? Et puis, les hommes, les Congolais, ils ont un complexe de supériorité envers les femmes. Et quand il n'a pas d'argument, il menace. Oh, mais dit, vous allez prendre ces femmes-là, mais ils vont courir avec n'importe qui et tout et tout. Et puis, quand la femme la place, on va dire toujours, il y a un homme derrière. C'est quelqu'un qui l'a placé.
Voyons maintenant en musique ce que prônent les artistes de féminisme. Car, comme disait Hillary Clinton en 1995, « Women's rights is human rights », traduisez, « Les droits de la femme sont les droits humains ».
We have a big, big problem, ladies. First, you've got to get mad. Oh, yeah, get up out of your chair. Go to the window. Open your door, stick your head out and yell.
I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together?
Par interpréter une présentatrice de presse qui exhorte les femmes à se dresser contre leurs oppresseurs masculins, une femme au foyer des années 1950, une secrétaire des années 1960, une ouvrière sous-payée dans les années 1970 et une femme d'affaires des années 1980. Monsieur Adelard, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes vous-même un politicien. Que pensez-vous d'abord de ce titre de Jenny Lo?
En fait, il s'agit d'un coup de gueule, en quelque sorte, de la part de Jennifer, qui a sa façon de voir les choses. Et bon, dans une certaine mesure, on peut partager cette façon de voir les choses, à savoir la femme qui ne doit pas être chosifiée, la femme qui doit garder quand même, à un moment donné, sa casquette ou son étiquette d'égal de l'homme, et pas une femme qui doit être totalement au service de l'homme. Non, je crois que Jennifer a tout à fait raison. Pourquoi ? Puisque aujourd'hui, suite aux différentes coutumes, surtout ici chez nous, aux différentes façons de voir les choses, la femme est encore loin d'atteindre le bout du tunnel. En d'autres termes, elle est loin d'être valorisée dans différentes sociétés, surtout celles africaines. Voilà pourquoi il est tout à fait normal que cette femme puisse se plonger dans cette espèce d'engagement pour pouvoir se libérer et être considérée comme partenaire véritable de l'homme.
Alors, je vous pose vous la question. Aujourd'hui, êtes-vous prêt à accepter une femme à la gestion de l'institution, à la gestion du pays?
Lorsque nous partons du principe ou du constat selon lequel nul ne détient le baromètre de la capacité de gestion de la Respublica, il y a lieu de souligner que le pays ici, ou même tous les pays pratiquement du monde, doivent absolument accorder un espace politique à l'homme, en dehors peut-être de la différenciation qui repose sur le sexe. Je ne vois rien qui puisse exister à l'homme et qui ne puisse pas l'être au niveau de la femme. Nous avons tous les atouts possibles. Et il y a eu des figures de proue qui ont eu à l'éprouver, tant au niveau local, national et même international. Je pense que sur le plan politique, la femme a tous les atouts possibles, comme son partenaire. Mais le problème réside au niveau de la considération de la femme, surtout dans notre pays.
Et nous allons terminer avec le professeur Pierre-Félix Kandolo. Que disent d'abord les clichés, professeur?
Bon, il faut considérer la femme d'abord comme un être qui n'a pas, en fait, la possibilité d'accéder à certains faits, à certains actes, à certains milieux. Ce n'est pas qu'elle n'a pas la possibilité, mais elle a des limites par rapport à son sexe. Vous voyez, par exemple, lorsque je lis beaucoup les offres d'emploi, on dit la candidature de la femme sera
à
encourager. Sur le plan de respect des droits, c'est une phrase qui a son sens, parce que nous voulons l'équilibre, nous voulons la parité, nous voulons l'égalité. Il faut donc que les femmes viennent nombreuses postuler. Je vais vous dire une anecdote, c'est que par exemple, un pays comme le Canada, lorsque vous avez l'égalité des compétences devant un employeur, entre l'homme et la femme, c'est la femme qui sera d'abord engagée par rapport à la
discrimination positive.
Femme, qui a son sens par rapport à l'émergence du sexe. Mais dans certaines sociétés, lorsque la femme va pour déposer son dossier, vous allez voir celui qui recrute, si c'est un homme, il fait des yeux doux à la femme et parfois même il promet le poste en contrepartie des actes impudiques.
Voilà.
Et certaines femmes, se trouvant devant cet obstacle, ne veulent pas s'engager de n'importe quelle manière dans les milieux.
Donc une question de style.
Une question de style. Ce qui fait que par rapport à l'homme, la femme reste toujours réservée, surtout dans des sociétés africaines où c'est rare que les femmes se plaignent par dignité.
Par honte aussi, parce que tout le monde va savoir que elle a abandonné son travail à cause
de ceci, à cause de cela. Et les autres peuvent interpréter autrement aussi, surtout quand la femme est déjà mariée. C'est risquant pour son ménage, c'est risquant vis-à-vis de ses relations avec sa belle famille, c'est risquant vis-à-vis de ceci.
Pourtant, la femme, quand elle est au management, elle a l'habitude de reléguer en fait les responsabilités, tandis que l'homme a tendance à s'accaparer tout le pouvoir, donc c'est lui le chef.
Il faut dire que la femme, c'est bon être sur le plan d'évolution de la société. La femme participe beaucoup plus pour l'émergence que pour la concentration, pour la conservation.
S'il y a certes des différences notables qui sont en effet régulièrement constatées entre ce que l'on pourrait qualifier de management au masculin et de management au féminin, qu'est-ce qui fait la différence au juste?
Moi, je crois que sur ce plan de potentialité, de leadership des femmes par rapport aux hommes ou des hommes par rapport aux femmes, parce que les hommes sont toujours nombreux par rapport aux femmes, je crois que c'est une lutte qui reste à mener. Je l'ai dit, c'est un droit. On ne se fait pas des cadeaux dans la société par moment. On n'aime que pour vous accorder un droit que vous puissiez le revendiquer, que vous puissiez le demander. C'est comme ça même que les droits de l'homme sont nés.
Professeur, parce qu'on connaît tout cela, pourquoi ne pas appliquer aussi ce que les autres pays appliquent? Nous en avons d'ailleurs élevé la discrimination positive.
Il y a un autre problème qui se pose par rapport à une telle question, c'est que est-ce que les femmes se manifestent en grand nombre? Le deuxième problème, parce que nous sommes dans le principe d'égalité des armes, d'égalité de chances. Évidemment, je vais développer la question de discrimination positive.
Oui.
Est-ce que ces femmes qui sont disposées à faire la politique réunissent-elles les conditions nécessaires pour le faire, pour entrer dans ce milieu? Prenons qu'on exige qu'aujourd'hui, on doit être licencié pour faire. Mm-hmm. Est-ce que les femmes qui postulent ont rempli cette condition? Est-ce que les femmes qui viennent pour demander remplissent la condition, par exemple, de l'âge? Est-ce que les femmes qui viennent pour demander remplissent la condition d'avoir vécu en République démocratique du Congo pendant autant de temps? Parce que ce sont des conditions qui sont fixées. Une réalité, par exemple, lorsque vous suivez le problème des conditions à la présidentielle,
mmh.
Il est certes à critiquer que le montant, par exemple, de la somme qu'on a fixée écarte la femme.
Mmh.
Parce que les femmes n'ont pas la même possibilité de trouver l'argent comme les hommes.
100 000 dollars.
$100,000 pour qu'une femme en trouve, voilà. Il faut se demander l'origine de cet argent. Justement, on peut coller à la femme les étiquettes de quelqu'un qui sort avec telle personne, mm-hmm. telle autorité, mm-hmm. qui l'a supporté, mm-hmm. qui lui a donné l'argent. Où est-ce qu'elle peut trouver cet argent?
Des clichés
exclusifs.
Voilà.
Ce sont des choses qu'il faut revoir avec le temps pour essayer d'équilibrer et de permettre aux autres. Soit que si on veut que les femmes viennent nombreuses, mais on dit par exemple pour les femmes, elles paieront autant symboliquement pour encourager les candidatures des femmes. On peut par exemple sur 100 000, on dit bon les femmes peuvent payer 50%. Pour les encourager à venir nombreuses.
C'est aussi cette forme-là de cliché qu'on appelle la motivation,
oui.
qui est un critère aussi important que le talent.
Très objectif.
Voilà.
Très objectif et qui puisse permettre à l'autre sexe qu'on trouve être minoritaire mm-hmm. à un niveau de décision, à un niveau de prise de décision.
Okay.
On peut les encourager par la réduction, par exemple, de ce qui complique.
La dernière question, professeur, est-ce qu'aujourd'hui on est prêt, nous Congolais, à avoir une femme à la tête du pays, une femme à la tête des assemblées, l'Assemblée nationale?
Moi, je crois que nous sommes prêts. D'abord, au regard de la loi,
mm-hmm.
nous sommes prêts. Mm-hmm. C'est que, quelque part, on a enlevé l'ancien cliché que nous avions, de croire que la femme est toujours inférieure, et on a prédominé l'esprit d'égalité. Et de comprendre que la femme peut diriger. C'est pour cela qu'on les tolère dans notre pays. Une femme a déjà été présidente de l'Assemblée nationale. Dans notre pays, des femmes ont été des chefs de juridiction. La femme ne va pas être chef de l'État parce qu'elle est femme.
Mmh.
Elle va être chef de l'État parce qu'elle a mérité.
Voilà.
Elle vient d'une lutte, elle a combattu, elle a posé sa candidature, elle a bataillé fort,
mmh.
et donc la population a accepté le projet des sociétés et la population lui a fait confiance. Quand une femme gère, les hommes parfois regardent avec pitié, l'aide à pouvoir gérer et à sortir du pouvoir avec honneur.
Cœur et cerveau en même temps,
oui.
qui sont en symbiose.
Alors que
du côté
quand
homme, alors que c'est l'homme, c'est juste le cerveau.
Oui,
quand le cerveau bloque
c'est
que ça bloque.
Ça bloque.
Professeur, nous avons toujours le plaisir de vous recevoir dans notre émission Parité Famille.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, madame.
Parité et famille, c'est fini. Merci à Blaise Dongala qui a participé à la production de ce magazine, supervisé par Jeannot Matouaki et coordonné par Thérèse Cancourt. Pierre Dassinois était à la prise de son. Je suis Nelly Fallon Kabena et je vous dis merci pour votre aimable attention. À la prochaine pour d'autres questions du genre et de la famille.